1, 2, 3.
1, 2, 3.
1, 2, 3. Ok.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbault, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité se devine en 8 films. Terminator, Alien, Abyss, True Lies, Titanic et Avatar. Oui, je sais, ça fait 6. Mais c'est qu'il a aussi fait des suites, chacun de ses longs métrages, se déployant comme autant d'univers, puisant tous leur origine dans son imaginaire d'enfant. Armé de pinceaux et de stylos dans les années 60, il rêvait déjà les yeux grands ouverts de créatures hybrides, d'exploration au fin fond des mers ou au-delà du ciel. Plus grand, il a inventé les outils pour réaliser ses rêves sur grand écran et les offrir au monde. Une exposition rend hommage à son art qui, tout en nous faisant voyager au-delà de la planète, ne cesse de nous ramener les pieds sur Terre.
Bonjour James Cameron.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midi de Culture.
Thank you.
Et bonjour à vous, Harold Manning.
Bonjour.
Vous allez être la voix de James Cameron durant cette rencontre.
Cette exposition, l'art de James Cameron, s'ouvre avec vous. Une vidéo de vous, James Cameron, dans laquelle vous vous adressez aux visiteurs. Alors, vous présentez cette exposition comme un voyage psychologique. Pourquoi vouloir ouvrir ainsi votre psyché aux visiteurs de cette exposition? Pourquoi parler de voyage psychologique?
It's interesting. We found as we were developing this exhibit,
parce qu'on a trouvé en développant ce projet, que c'était très biographique, en fait.
The organizer of the actual kind of layout of the exhibit, Kim Butts,
l'organisatrice Kim Butts, que je connais depuis des années, m'a dit, et finalement, ça raconte ton itinéraire, la façon dont toi, enfant, a eu ces idées, ces thèmes, ces images dans ta tête et comment tu les as développées avec le temps. Elle m'a dit, on ne peut pas séparer toi, ta personne et tes films et ce travail-là. Donc j'ai dit, ok, c'est toi qui t'en occupe, c'est toi, c'est ton truc. Et c'est elle qui m'a vraiment orienté dans ce processus. J'ai dû m'abandonner complètement à elle parce que je ne pourrais pas être objectif, personne ne peut être objectif sur son propre travail. Il faut faire confiance à d'autres gens, à des gens, pour qu'ils estiment la valeur des choses. Tous ces dessins, ils étaient dans des cartons pour moi. Je n'avais pas ouvert ça depuis 25-30 ans et je ne pensais pas qu'ils avaient la moindre valeur. Pour moi, ça parlait simplement des films.
Mais vous dites, James Cameron, abandonné, ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose où vous auriez pu être dépossédé. On découvre des archives, comme vous le dites, qui étaient dans des cartons, qui étaient sûrement chez vos parents, des choses très personnelles. C'est pas une manière un petit peu de trop en dire ou d'être dépossédé?
C'est aux autres, aux gens de décider. Moi, je pense que c'est important d'inspirer les jeunes et de leur montrer votre processus. Beaucoup de ces dessins ont été faits avant même que je travaille dans le cinéma, que je fasse des films. C'était aussi sur mes deux premiers films, sur Terminator, sur Aliens. Et là, je n'étais pas vraiment quelqu'un de très installé dans le métier.
Et si des gens parcourent cette exposition, peut-être qu'ils vont,
s'ils ont un talent pour écrire, pour dessiner, mais peut-être qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et là, ils peuvent voir un autre artiste sur cheminement. Et là, du coup, ça vaut le coup, c'est intéressant.
Mais
moi-même, aujourd'hui,
don't believe in themselves.
Il y a des gens, j'en fais partie, qui n'ont pas confiance en eux. Parce que le monde est devenu tellement compétitif avec tous ces gens partout. Tout est tellement immédiat, les médias sociaux, etc. En musique, en écriture, en poésie, en art. C'est très difficile pour des gens jeunes de savoir leur propre valeur. Et là, ils peuvent voir l'itinéraire de quelqu'un, son cheminement. Quelqu'un qui vient d'une toute petite ville dans le Canada, très 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 loin des gens connus du monde. Moi, je n'avais jamais rencontré quelqu'un, jamais croisé quelqu'un qui avait travaillé sur un film. Et en voyant ça, peut-être que vous allez pouvoir vous dire, mais moi, je pourrais aussi faire ça. Et ça, c'est bien, ça a une valeur alors.
Est-ce que, James Cameron, vous avez découvert quelque chose sur vous en reprenant comme ça votre voyage, votre trajet?
I think it was pretty inevitable that I would see with some clarity after the fact
que quelque part après coup, je découvre quelque chose, que je vois quelque chose de nouveau sur ce cheminement. Mais c'était très important de savoir que je ne savais pas ça à l'époque, je ne savais pas où aller. C'est donc quelque part, rétrospectivement, toute une histoire que cette exposition raconte. Il y a vraiment un début, un milieu, une fin. Mais ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'il y a un moment, une période de votre vie, et c'est quand vous êtes adolescent en général, peut-être même quand vous êtes jeune adulte, où certaines idées deviennent très importantes pour vous. Et là, vous êtes pris de passion pour ces idées. Et là, je vois qu'aujourd'hui, je suis en fait la même personne qu'à ce moment-là, peut-être avec plus d'expérience, peut-être plus de nuances quand je dois exprimer quelque chose. C'est des idées parfois sur lesquelles j'ai travaillé et que j'ai commencé alors que j'étais vraiment avec une approche très juvénile, mais c'est bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie et de l'évolution des idées. Mais c'est la même personne. Je suis vraiment la même personne. J'ai toujours ce regard critique sur le monde. J'ai toujours des problèmes, j'ai toujours une distance. J'ai toujours quelque part... dès les années 60, j'avais finalement... Je manquais de confiance dans le monde. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait. Et je voyais... Quelque part, je voulais être indépendant. Le mouvement des droits civiques, les manifestations contre la guerre du Vietnam, les premières manifestations contre le nucléaire, toutes ces manifestations-là, ce sont des thèmes aussi assez dystopiques qui existent et qui se retrouvent dans mes fictions, dans la littérature de science-fiction de l'époque. Et en même temps, donc, c'était une époque extraordinaire parce qu'on allait marcher sur la Lune, on explorait les océans et on découvrait des choses extraordinaires dans le domaine scientifique. Et il y avait des possibilités absolument énormes. Presque l'Internet. Alors bien sûr, mon côté très science-fiction aimait beaucoup ça. Donc c'était une époque très vivante pour les idées.
Ce qui est frappant dans cette exposition exactement, James Cameron, c'est qu'on voit que déjà dès l'adolescence, il y a presque tout de ce qu'on va trouver dans votre cinéma encore aujourd'hui. Vous dites que vous n'avez pas du tout changé. Vous avez par contre énormément de moyens maintenant pour mettre en œuvre vos idées. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui ont changé dans votre manière de voir les choses ? Là, vous avez parlé de droits civiques, de la guerre au Vietnam. Le monde n'est pas complètement le même, mais les problématiques sont les mêmes. Est-ce que vous avez changé ?
Le monde est très différent aujourd'hui. Et la technologie qui nous rassemble, qui nous connecte et qui parfois nous sépare les uns des autres est très différente que la technologie de l'époque. Mais les problèmes n'ont pas disparu. Les problèmes environnementaux, les problèmes de climat, les guerres, le racisme. On était très optimistes dans les années 60. On pensait qu'on allait évoluer, qu'on allait faire quelque chose de nouveau par rapport à la génération de nos parents et qu'on allait tout réparer le monde. Il y avait cette illusion que l'on voit maintenant, alors que le racisme existe encore, le sexisme existe encore, c'est toujours un des problèmes. Les droits à la liberté de se reproduire pour les femmes est toujours le même. Et parfois, ils reculent ces droits-là. Et donc, il y a des problèmes. En tant qu'artiste, il faut toujours quand même lever la voix pour ce que vous croyez, pour ce qui est important. Il y a aussi de nouveaux problèmes qu'on n'avait pas, comme l'intelligence artificielle générale. La science-fiction, ça a toujours été quelque chose d'intéressant. Elle anticipe les problèmes de l'avenir. Et quand on parlait d'intelligence artificielle à l'époque, on en parlait vraiment un peu Kubrick, un petit peu. La science-fiction vous permet quelque part de rester en vie et toujours présent et de pouvoir réagir, d'analyser votre société et de voir les modes, les avancées, les reculs. Alors je dirais, je ne peux pas dire que je suis la même personne parce qu'aujourd'hui, comme je suis père, la famille, la vision que vous avez de vous-même en tant que parent, ça change beaucoup de choses. Mais ça change aussi l'importance de certaines choses.
My films are now et puis, becoming mes films more and more ont clairement
parlent de plus en plus de ce que c'est que d'être parent, de ce que c'est d'être un enfant. Et dans ces films, Avatar, j'écris ces personnages de jeunes, d'adolescents, de jeunes, et quelque part, je parle de l'adolescent que j'étais. Tout ce que je créé à l'époque quand j'étais petit, rien ne parlait de la famille. C'était des personnages très solitaires. C'était des femmes solitaires. De l'aventure, de la fiction, des choses comme ça. C'était des gens qui étaient soit solitaires, soit qui existaient dans un groupe entouré de pères. Il n'y avait pas de question de la structure familiale. C'est quelque chose qui est venu avec ma nouvelle perception du monde.
A-t-on relevé des spécimens de cet organisme hostile sur LV4?
Non, c'est un rocher sans aucune vie indigène.
Est-ce que le QI aurait été rabaissé à ce point depuis mon départ?
Madame, j'ai déjà dit que cette créature venait d'ailleurs, sur un vaisseau à la dérive dans l'espace. Cet engin ne venait pas de notre système. C'est clair? Et notre vaisseau s'est amarré à l'île.
Vous avez trouvé une créature que l'on n'a jamais signalée dans aucun des 300 mondes habités.
Une créature qui engendre à l'intérieur d'un être humain vivant.
Oui, je cite votre rapport. Son sang est un concentré d'acide à demi-solide.
C'est exact. Écoutez, je devine comment ça finira, mais je vous affirme que cette créature existe.
Merci, mademoiselle Ripley, ce sera tout.
Mon Dieu, vous allez m'écouter! Un homme de mon équipage, Kane, est entré dans cet engin et il m'a dit avoir vu des centaines d'œufs à l'intérieur, des milliers.
Ce sera tout, veuillez disposer.
Mon Dieu, non, ce n'est pas tout! Mais si une de ces créatures arrive jusqu'ici, alors oui, ce sera tout et tout ça! Ces rapports à la con vous trouvez si importants, vous n'aurez qu'à les planquer tout ça au panier!
Je me demande pourquoi pour vous, James Cameron, la science-fiction est peut-être le meilleur moyen de poser des questions sur l'organisation politique, les problèmes sociaux, économiques qu'on rencontre, alors que ça pourrait paraître plus éloigné, une sorte de divertissement ou d'échappée pour le public.
La science-fiction, c'est du spectacle. Mais il faut se souvenir que, avant Star Wars, en 1977, la science-fiction, c'était plutôt des dystopies. C'était plutôt montrer des problèmes et les soucis qu'allait amener la technologie et qu'allait modifier la sociologie, comme 1984. Vous voyez, c'était pas tellement une question de technologie, mais de sociologie. Et c'était des avertissements. Star Wars est arrivé, et puis finalement, a tout transformé parce que ça devenait des films d'aventure. On a passé finalement des dizaines d'années avec la science-fiction devenant un spectacle seulement. Et maintenant, c'est en train de changer. Ça a changé. Dès que Terminator a commencé ce changement.
Donc vous avez inauguré ça.
Non, je ne veux pas prendre ce crédit-là, non. Je crois qu'il faut simplement que tout le monde comprenne aujourd'hui que ce n'est pas une question de pop-corn et d'amusement, la science-fiction. Comme dans toute forme d'art, littéraire, visuelle, c'est important de faire un commentaire sur l'époque, d'avertir les gens, d'éveiller les gens. C'est le rôle de la science-fiction, mais ce qui est compliqué, c'est que nous vivons dans un monde de science-fiction aujourd'hui, pour de vrai. Nous avons aujourd'hui une véritable menace d'une intelligence artificielle super intelligente, en fait. Et c'est une menace. Une menace de l'annihilation nucléaire qui n'a pas disparu du tout. Le climat, je crois que collectivement, maintenant, on l'a tous compris. Mais les problèmes qu'il nous faut résoudre sont des problèmes scientifiques. Pour la première fois, il nous faut quelque part tous être connaître des choses scientifiques pour comprendre et pour convaincre les gens qui ne croient pas. Donc plus que jamais, nous habitons un monde dans lequel la connaissance scientifique est essentielle pour réfléchir avec un sens critique sur notre monde, pour ne pas être trompé, pas nous faire tromper par les fake news.
In many ways, it's a much more treacherous
plein de choses, world. C'est un monde beaucoup plus difficile.
When I was growing up,
moi, quand j'étais petit,
now everybody has their own news.
Il y avait les nouvelles, le journal télévisé, alors qu'aujourd'hui, il y en a 20. Quelque part, on a l'impression que chaque individu est amené à vouloir croire et à pouvoir croire ce qu'il a envie de croire. Aujourd'hui, nous pouvons maintenant, il nous faut maintenant trouver une réalité objective. Et la science-fiction, elle est assez proche de la science elle-même. Moi, je trouve que c'est difficile de lire de la science-fiction aujourd'hui. Parce qu'auparavant, c'était vraiment l'avenir, etc. Mais aujourd'hui, ce que ça raconte, c'est notre présent. C'est la vie.
Vous croyez vraiment que la science peut apporter la réponse alors que la plupart de vos films, James Cameron, dès le premier, dès Terminator, montre l'ambiguïté de la science, de la technique, de l'usage qu'on fait justement de la technique. Alors pourquoi vous croyez encore dans la science ?
It's a very good question, but très bonne question. But I feel that the ambiguity
cette ambiguïté dont vous parlez, c'est plus une ambiguïté de la technologie. La science, c'est une forme pure. Et je dis toujours que chacun a sa propre vérité. Mais pourtant, il n'y a qu'une seule vérité. Et on l'obtient par une méthode scientifique. Mais ce qui rapidement vient avec la science, c'est que la technologie, finalement, est amenée à finalement être mal utilisée au bout d'un moment.
Et
vous voyez, par exemple, dans Aliens, on voit qu'ils croient tous dans leurs armes, dans leurs nouvelles technologies, et ils battent finalement un ennemi qui n'est pas du tout technologique. Ils se croient donc supérieurs, mais à la fin, le conflit est résolu par Sigourney Weaver, qui utilise la technologie d'une machine très simple, très basique, qui est quelque part juste une arme très très basique, banale, une technologie maintenant qui n'existe finalement plus. Mais la technologie, elle a quelque chose de positif et de négatif. Elle est négative dans Terminator, parce que finalement, c'est une presse hydraulique qui va détruire la technologie qui a voulu la peau de Sarah. Mais donc, je crois que quelque part, toutes ces forces qu'il y a dans le monde, par la nature humaine, amplifiées pour des, par le mal, parfois, contre le bon, tout ça, ça raconte quelque chose qui est notre présent. Et ça le montre avec des filtres éthiques. Tout ça également existe en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui peut être une chose merveilleuse et qui peut améliorer nos vies, et qui peut faire de l'avenir quelque chose de positif et de vivable. Mais ça peut être aussi des armes, et peut-être que ça va faire venir des guerres, et faire venir aussi des États autoritaires. Et donc, on peut se lancer dans une guerre nucléaire par intelligence artificielle et qui pourrait finalement ressembler à la guerre froide des années 50.
James Cameron, j'aimerais vous faire entendre la voix de quelqu'un qui a compté pour vous dans votre parcours.
I was making films so fast that I didn't have time to write.
Je faisais des films tellement vite que je n'avais pas le temps d'écrire. Je me souviens, sur un film, je tournais le matin, je faisais des castings le midi pour un autre film, et le soir, je montais le premier. Je me souviens d'avoir pensé en me couchant, il va falloir que je m'endorme vite. Et là, je me suis dit, attends, t'es fou. Et j'ai décidé de ralentir.
Roger Corman.
Oui, c'est Roger Corman.
Who was this crazed maniac?
Ce maniaque de dingue qui a fait tant de films très rapidement et pour peu d'argent.
Mais il a fait 50 films et il a produit 400 films.
No, it's amazing.
Bien sûr, c'est dingue, c'est dingue.
Et donc, vous avez travaillé avec lui, James Cameron. Lui, c'est un réalisateur de films de série B. Et je l'ai dit, il a fait un nombre de films incroyables. Vous, d'une certaine manière, vous avez fait une toute petite filmographie de 8 films. Vous avez des méthodes radicalement différentes. Lui, il travaille vite, on l'a entendu dans l'archive. Vous, au contraire, vos films sont des projets qui datent de l'enfance et que vous mettez en œuvre durant des années.
Roger and I are very, very different. I mean, we do
share. Roger est très différent.
We do share a certain pragmatism.
On partage un certain pragmatisme.
You know, that it's just a movie. I mean, believe it or not.
Tout ça, finalement, c'est que du cinéma. Croyez-le ou pas, mais je dis ça tout le temps sur le plateau aux gens. Je dis, les mecs, c'est que du cinéma, hein, c'est tout.
Whole world building and detail,
on travaille sur la construction de monde entier, sur plein de détails, des détails qui aideront le public à entrer dans l'histoire. Alors que Roger, lui, son cinéma, c'était du geste, c'était de l'immédiat, il voulait des faits. J'ai beaucoup appris de lui. J'aurais pas pu faire Terminator si j'avais pas travaillé pour Roger auparavant. Et si jamais j'avais pas commencé avec son esthétique à lui, parce qu'il faut filmer vite, il faut travailler toute la nuit, peu importe. Et ça, ça vient de l'école Roger Corman, ce côté film indé à tout prix.
Et puis,
Il y avait des films de guerre qui étaient effectivement aussi des guérillas, comme étant particulièrement indépendants aussi.
But, you know, I think I evolved into a different type of filmmaking.
Mais moi, j'ai passé à autre chose après. Mais je sais, je travaillais vite. Hein. Je peux porter la caméra, à l'épaule et j'adore faire ça. Mais ce n'est plus tellement le genre de film que je fais. Si je fais un film épique, grande épopée, et qui a besoin d'un décor immense et qui a besoin de beaucoup d'ordinateurs, d'images générées par ordinateur, mais ça m'est égal finalement. Et puis vous l'avez dit, beaucoup de ces idées viennent de l'enfance, alors pourquoi se presser, hein, si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave.
Ce qu'on découvre dans cette exposition, James Cameron, c'est qu'aussi vous n'êtes pas seulement un conteur, vous êtes aussi un fabricant justement, vous pouvez presque tout faire, mais est-ce qu'il y a peut-être une partie qui vous intéresse plus qu'une autre? On peut dire par exemple que vous avez fondé une société d'effets visuels, que vous avez pensé au cinéma numérique, vous avez développé la 3D, dans Avatar vous avez développé aussi des techniques pour saisir les mouvements d'une certaine manière. C'est pas le côté inventeur en fait qui vous plaît plus que le côté direction d'acteur ou même conteur?
Non, I love directing actors, but it's everything in its time.
Comédiens. Mais chaque chose en son temps. Quand je commence un projet, j'écris. Je suis tout seul. Je crée des personnages. Et ils ne viennent de rien. Ils prennent vie. Et puis, après, je vais faire le casting, trouver des comédiens pour incarner ces personnages. Et là, quand vous commencez à tourner, vous savez que ce moment sacré de travailler avec l'acteur et d'autres esprits humains, d'autres collaborateurs, va faire finalement un travail de groupe, un travail collectif, et qu'on va travailler à faire quelque chose ensemble. Mais si jamais, dans ce cas-là, parfois je peux avoir le temps de penser à me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire mieux? Quelle est la technologie que l'on pourrait trouver pour que ce film soit plus particulier, visuellement? Parce qu'il y a la dramaturgie, il y a les interactions entre les gens, et ça c'est le domaine de l'acteur et moi en tant que scénariste et réalisateur. Mais quelque part, il y a aussi la technique, la lumière dans mon esprit technique. Et dans le domaine de la 3D, je voulais pouvoir montrer quelque chose qui soit spatialement plus intéressant à l'œil, qui soit plus présent pour le spectateur. Et je me dis que si jamais on est plus présent dans le moment, et ça va passer par la 3D, par des effets spéciaux, si jamais vous donnez plus de présence à vos images, le spectateur va ressentir une réalité. Et les interactions entre les acteurs, l'histoire que vous racontez, elle aussi va devenir plus forte. Donc, il y a une sorte de mythe qui circule, il me semble, à Hollywood et dans l'art en général, qu'on ne peut pas être technique et humaniste en même temps. Mais bien sûr que c'est possible. Le cinéma a toujours été quelque chose de très technique, ça n'est pas une forme pure. Une forme pure, c'est un acteur sur une scène. Ça, c'est une forme pure. Et
bien,
en fait, c'est pas tellement pur parce que le public est en face et le public, il est sur la scène. Donc, il y a quelque chose quand même de faussé, ou en tout cas de biaisé. Mais en tout cas, c'est une forme plus pure que le cinéma. Le cinéma, vous tournez un plan, puis l'autre, vous découpez les choses, vous refaites et refaites ces choses. Il y a une discipline. Et pour garder le sentiment que c'est naturel, que c'est fort, alors que ça n'est pas du tout, alors que c'est complètement technique, il faut vraiment que pouvoir utiliser la performance, performance capture notamment, pour pouvoir arriver à mettre sur l'écran quelque chose qui soit à la hauteur de ce que les acteurs font. Et je dirais que là, peut-être, on touche une forme pure, parce qu'on n'a pas besoin de faire encore avec les acteurs. On le fait une seule fois. Alors, pas vraiment une fois, on la refait parce qu'on essaie de partir à la recherche de quelque chose qui soit une vérité humaine, une interprétation qui soit meilleure. Mais une fois que vous l'avez, et bien c'est peut-être à la cinquième prise, peut-être à la huitième prise, mais une fois que vous l'avez, de cette performance, vous pouvez sortir un gros plan, le gros plan de l'acteur en face, le plan Steadicam, la vue de l'hélicoptère. Tout peut être ensuite fait et monté après. On utilise donc de la technologie pour séparer le travail de l'acteur, de toute la technique cinématographique. Alors ça a l'air un peu dingue, mais les acteurs adorent ça. Parce que ce que l'on fait toute la journée, c'est travailler avec les acteurs. Ils sont à 100% dans mon attention. Je suis entièrement pour eux en tant que réalisateur. Et pas seulement en tant que réalisateur, mais entre scénaristes aussi, je connais ces personnages. Et ça devient donc une forme de création très pure et qui n'est pas ensevelie sous la technologie. Quelque part, on a réussi à retirer la technologie et de la mettre en dehors du cheminement que je fais en tant que metteur en scène avec mes comédiens. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est exactement les personnages, certains personnages de vos films. Par exemple, Terminator, c'est exactement ce mélange entre de la technique et des tissus humains. C'est-à-dire que la manière dont vous faites des films, c'est exactement ce dont vous parlez. Ce qui me fait penser à un très beau dessin qu'on découvre dans l'exposition qui s'appelle « Réhabilitation », qui est la Vénus de Milo avec les bras de Terminator. En fait, vos films, c'est ça. C'est la Vénus de Milo avec les bras de Terminator. Oui ?
Oui, avec les bras synthétiques, oui, tout à fait. Mais je joue avec ces idées dans ma tête depuis des années pour Terminator. Il y a une machine sans âme qui chapeaute un humain. Et vous avez Alita, comme cette fille cyborg, un corps synthétique complètement artificiel. Et pourtant, son esprit, son intelligence, est organique. Et donc, elle a toutes les émotions d'une jeune fille réelle. Ces personnages sont complètement opposés l'un à l'autre, mais ils jouent avec les mêmes idées. De quelque part, du mélange de l'humain et de la technologie. Et c'est ce que l'on fait, en fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Nous ne faisons que mélanger le naturel et la technologie. Et c'est ça notre avenir.
Alors, ça n'a rien à voir, James Cameron. Mais pourquoi vous avez une telle fascination pour l'eau ?
Vous savez, 73% du corps humain, c'est de l'eau.
Je suis composé d'eau et je ne suis pas fasciné par l'eau.
You're not fascinated. No. Where does that come from?
D'où ça vient ?
Hard to say. So,
difficile à dire.
In the I've always been attracted to water, but
j'ai toujours été attiré par l'eau.
Much higher level in the mid-60s.
Mais c'est au milieu des années 60, avec les films de Jacques Cousteau, que c'est devenu important pour moi. Il y avait d'autres sources, bien sûr, les films et le magazine National Geographic, la plongée, les expérimentations de la vie sous l'eau. À l'époque, on se disait que ça allait être possible de vivre sous l'eau. Mais c'est vraiment Cousteau qui était cinéaste et qui a amené les merveilles de l'océan chez les gens et qui les a montrées à tous les gens partout dans le monde. Et pour moi, le lien, c'était que j'aimais les histoires qui se passaient sur d'autres planètes et dans des environnements extraterrestres, les histoires de science-fiction. Et je me disais, quand je voyais ces images extraordinaires tournées sous l'eau, je disais, mais nous avons une planète extraterrestre, mais sur Terre. Il faut simplement plonger, apprendre à plonger très profond. Et donc, voilà, il fallait que j'apprenne à plonger, voilà, naturellement. Et j'ai dit à mes parents, je veux apprendre à plonger.
Et ils m'ont dit,
mais il n'y a pas d'océan ici. L'océan est à 600 km d'ici. J'ai dit, m'en fous.
Donc,
mon père m'a inscrit dans un cours aux États-Unis, parce qu'on habitait près de la frontière, on était au Canada. Et donc, on traversait la frontière des États-Unis vers la ville de Buffalo. Et au milieu de l'hiver, en février, il faisait très froid au Canada. J'ai appris à faire de la plongée dans une piscine. Et il m'a fallu 2 ans pour enfin pouvoir plonger dans le vrai océan. C'était en Californie, il faisait plus chaud. Mais c'était là tout ce que j'espérais. J'étais fasciné. C'était tellement envahissant, tellement fort de respirer sous l'eau. Quand vous respirez sous l'eau, vous ressentez vraiment, vous avez l'impression d'être un astronaute qui met le pied sur une autre planète. Et puis pas seulement, d'ailleurs, c'est pas seulement le pied, vous ne marchez pas, vous flottez. C'est comme être sur une autre planète et en même temps être dans l'espace. Donc tout, absolument tout ce que je voulais faire. des années plus tard, j'ai commencé à développer l'hypothèse que de vivre sous l'eau était aussi vivre dans une sorte d'inconscient, dans son propre inconscient. Et c'était une métaphore cinématographique. Et j'ai beaucoup joué entre avec le cinéma et l'eau, comme une métaphore de l'inconscient, comme un état primal, primaire. Il y a beaucoup de symbolique.
Oui, comme le ventre de la mère, par exemple, aussi l'état fœtal.
Tout à fait.
Et donc, effectivement, le ventre de la mère, j'en ai fait le lien dans le film Abyss. On respire tous du liquide pendant 9 mois. Et donc, de respirer du liquide, quand être finalement dans le ventre de l'océan, et j'utilise aussi dans le dernier Avatar, dans La Voix de l'eau, quand elle récite, quand elle déclare, quand elle dit cette petite litanie, cette prière, avant de plonger, et elle parle de son cœur qui bat dans le ventre du monde. Et elle parle finalement de nous-mêmes qui, quelque part, respirons de nouveau dans le ventre de l'océan. J'ai eu des moments de grande paix dans la vie, soit en flottant, en respirant sous l'eau, ou alors en retenant mon respiration, en apnée, dans un état d'apnée. C'est des états très forts pour moi.
En 2012, vous avez été le premier homme à explorer en solitaire plusieurs heures la fosse des Mariannes. C'est près de 11 km sous l'eau et ça a plus de 10 000 mètres sous l'eau. Ça ressemble à quoi ?
C'est lunaire,
c'est comme si on était sur la Lune. C'est un sentiment désolé, mais il y a de la vie là. Il y a très peu, des tout petits animaux, des bactéries et des micro-organismes qui sont dans le sol, etc. Mais mon impression initiale, c'est une désolation ultime et une isolation très très loin. On est isolé du monde, comme on ne pourrait pas être. C'est très étonnant de ressentir ça et pourtant d'être quand même sur la Terre. Les gens autour de moi, ils étaient à 7 miles, à quelques kilomètres au-dessus, 11 kilomètres au-dessus de moi. C'était une expérience unique et je voulais vraiment expérimenter ça. C'était un petit peu répondre à mon désir d'enfant d'aller dans l'espace, d'aller explorer. Alors, je n'ai pas vraiment assez fait ça pour trouver des idées. Il fallait vraiment que j'y aille pour pouvoir comprendre ça, pour pouvoir projeter un corps dans un endroit qui soit si éloigné, si lointain, si différent. Et vous savez que vos yeux voient des choses que les yeux d'un humain n'a jamais vues auparavant. Et c'est quelque part votre responsabilité de ramener cette histoire, de la partager avec les autres, ceux qui n'ont pas le privilège de partir et d'avoir cette expérience directement. C'est toujours mon problème avec les astronautes dans les années 60, parce qu'ils racontaient n'importe comment leur histoire. C'était comme des machines, ces mecs. Ils étaient bons, ils étaient gentils, ils étaient sympas, mais ils n'étaient pas de bons avatars pour l'humanité. Ils ne savaient pas raconter leur expérience. Neil Armstrong, un héros extraordinaire, mais il est rentré, il n'avait rien à raconter. Allez, raconte ton histoire, mec.
J'ai une dernière question pour vous, James Cameron. Est-ce que vous avez peur de la fin du monde, comme beaucoup de monde qui craignent l'apocalypse, ou est-ce que vous pensez, comme Sarah Connor, no fate, pas de fatalité?
Well, look, I wrote that line for Sarah,
and I believe it's true. J'ai écrit ce dialogue pour Sarah.
There's no fate but what we make for ourselves, but
il n'y a.
The converse of that is we're not getting out of this
mais
if we don't take responsibility.
Si jamais la suite du dialogue, c'est que si jamais
it's not going to just happen for us.
On n'a pas d'avenir comme ça, il faut absolument qu'on le crée, il faut qu'on trouve. Et je pense que moi, ça va finir par fonctionner. Je pense qu'il y a une responsabilité que nous avons collectivement. Si jamais vous croyez au destin, vous pouvez vous détendre, et bon, si jamais vous croyez à la volonté, alors là, il ne s'agit pas de se détendre, il faut devenir un guerrier, un battant pour l'avenir de l'humanité. Toute personne qui est un parent et qui a des enfants, il leur faut devenir un guerrier pour l'avenir. Il faut croire qu'on arrivera à trouver des solutions pour tout. Moi, j'ai un côté dans mon esprit qui est assez apocalyptique et je pourrais écrire 1000 versions de la destruction de l'humanité, peut-être par un astéroïde, mais principalement par nous-mêmes.
As an engineer, as somebody who can physically make things and manifest them in the world, as an artist,
et aussi m'exprimer en tant qu'artiste, qui peut faire des films et puis des dessins, je sais qu'on peut partager des idées, qu'on peut partager par l'art, par des constructions, des choses que nous inventons, des technologies. Mais si nous travaillons ensemble, et je sais que ça a l'air bête, mais notre grande force, notre super pouvoir, ce n'est pas d'être seul. Notre super pouvoir, c'est notre capacité à coopérer, à travailler ensemble, et de nous considérer chacun comme des humains, et essayer de dépasser la situation. Et
ce
n'est pas seulement survivre, il faut survivre et puis trouver l'amour et puis aussi avoir des émotions pour les autres, partager. Il y a un livre très intéressant sur ce sujet qui s'appelle Humankind. Un livre qui explore toutes ces idées que nous sommes finalement des gens beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus généreux que nous le pensons. Les informations, le cinéma nous montrent toujours de la violence, toujours quelqu'un qui veut tuer les autres.
If it bleeds, it leads.
Aux informations, c'est du sang tout le temps, partout.
The news is drawn to violence, even though the violence
les informations
may be
sont attirées par la violence.
The world is
et la
than it's ever been.
Le monde est violent.
But it doesn't
partout.
Feel that way,
mais
right?
Ça n'est pas véritablement ça. Je pense que c'est important que nous devons reconnaître en nous-mêmes et en chacun d'entre nous qu'il y a du bon et que nous avons vraiment une capacité de partager avec l'autre. On n'est pas tous des sociopathes comme Donald Trump ou Jeffrey Dahmer. Mais pour la plupart d'entre nous, on a vraiment une passion pour les autres. J'ai mis Trump et Dahmer dans la même catégorie. Incroyable.
Merci beaucoup, James Cameron.
Avant qu'on continue sur la politique.
Pour terminer, vous avez le choix entre deux chansons extraites de bandes originales de vos films, soit la chanson de Titanic, soit celle d'Avatar. Laquelle souhaitez-vous écouter, James Cameron?
I'm a little bit over the one from Titanic, though I still love it.
Plus
I don't diss
Titanic.
It like everybody else.
Je l'aime beaucoup, mais j'en ai un petit peu marre.
The one from Avatar,
la chanson d'Avatar,
a catchy melody
a une mélodie qui est très catchy, et c'est une mélodie qu'on continue à utiliser dans tous les films à venir, et ça m'aide à finalement à me connecter avec ce monde. La chanson de Titanic est une meilleure chanson. Elle est interprétée magnifiquement. Mais l'écouter encore aujourd'hui et en prendre plaisir, c'est un peu difficile.
On écoute Avatar alors.
Merci beaucoup.
Yeah, thank you guys. I enjoyed it.
Et merci à vous pour la voix française Harold Manning. Je rappelle que l'exposition L'Art de James Cameron, c'est à la Cinémathèque française jusqu'au 5 janvier 2025, qu'une grande rétrospective vous y est consacrée, James Cameron, pour revoir tous vos films jusqu'au 26 mai. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas l'occasion d'aller à Paris, le catalogue de l'exposition est disponible aux éditions Hugging & Munin et d'Argo, sous le commissariat de Kim Butz et Mathieu Orléans. Un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Aïssa Touendoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. Réalisation Daphné Leblond, prise de son Benjamin Troncin et Jean-Guy Lermège. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
Merci Géraldine, à demain.
This world.